Bonjour, moi c'est Maëlle et je suis en présence de Méline, Inès et
Lucas de la 9CO7, en presque direct du CO Fuy-Saxon.
Aujourd'hui, malgré la situation du coronavirus qui nous fait être en demi-classe, nous allons vous présenter notre émission.
Elle va parler de sport hors du commun,
de musées,
de livres et plein d'autres choses géniales.
Et maintenant, nous allons écouter Laisse-moi t'aimer de Mike Brenz.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai. L'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sonnaient de la poussière. Toi, tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer rien que de nuit.
L'origine du golf moderne provient de Hollande. En 1297, à Loenenaan de Wetsch, lors d'une fête, un jeu pratiqué appelé golf où l'on devait taper dans une balle et l'envoyer vers un endroit précis. Dès 1360, les autorités de Bruxelles donnent des amendes aux personnes qui pratiquent ce sport, étant donné qu'il n'existe pas encore de terrain ou lieu approprié. Les gens y jouent quel que soit l'endroit. Le premier terrain de golf apparu en 1483 à Haarlem, aux Pays-Bas, dans un prétendu avec des trous. C'est finalement en Écosse que le golf moderne apparaît, grâce à des marins hollandais qui importèrent le matériel nécessaire, balles et clubs fabriqués en Hollande. En 1779, le golf se répand un peu partout autour du globe. Les grands golfeurs. Lee Trevino, né en 1939 à Dallas. Lee est considéré comme une légende du golf. Il a obtenu 29 titres, dont 6 majeurs. Il est une icône du golf pour les Américains. Bobby Jones, né à Atlanta en 1902. Plus jeune, Bobby était avocat et jouait au golf dans son temps libre. Pourtant, de 1923 à 1930, il dominait le golf de haut niveau amateur. Bobby a gagné 4 fois l'US Open, 3 fois le British Open et 5 fois le championnat amateur des États-Unis. Il était surnommé le Mozart du golf et est mort le 18 décembre 1971. Jack Nicklaus, né le 21 janvier 1940 à Columbus, est un des meilleurs joueurs de golf de tous les temps. Il débute sa carrière professionnelle en 1962 et prend sa retraite en 2005. En plus, il a remporté 6 tournois de Masters parmi ses 18 victoires de championnat majeur. Enfin, Tiger Woods, né aux États-Unis en 1975, Tiger est deuxième au classement mondial derrière Jack Nicklaus, avec 5 Masters, 3 US Open, 3 British Open et 4 US PGA, donc au total 15 titres, alors que Jack Nicklaus, lui, en a 18.
Bonsoir monsieur, madame, aujourd'hui je te dis tout, je préfère parler en tu, car je n'aime pas le vous, je trouve que ça vieillit, moi je veux rester petit, un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri, alors vas-y je te dis tout, sur le drame que je vis, au quotidien en enfer, voilà où je suis, je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout, de ce monde de fou, et partir je ne sais où, ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissant ce monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'il dise comment je pars sans lui faire de tort, qu'il me transforme en ce que les médecins appellent le fou. Et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors, cher monsieur, aide-moi, aime-moi, moi je n'y arrive pas. Dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte, où l'homme n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien que querelle et dispute, je voudrais m'écrire un monde, une planète, rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirais moi. Un renouveau s'enchaîne, dépourvu de haine, une planète sur laquelle tu me donnerais des ailes, un nouvel univers où les larmes, les ne serait qu'un mythe, qu'une putain de légende urbaine. Alors laisse-moi partir, dis-moi comment m'enfuir à cette question posée. Laisse-moi, la seule chose que j'aime en ta création, l'homme, c'est qu'il peut rêver chaque nuit comme les mômes. Qu'on soit vieux, jeune, vilain, gentil ou encore moche, on a le droit de rêver sans même rien dans les poches. Mendiant, j'implore le soir, je m'en dis de l'espoir, mais la nuit radine, madame garde sa morphine, parce que j'ai pas payé, ou du moins pas assez. Née de parents sans fortune, elle me refuse la lune, puisque certes dans ce monde on peut vivre sans ces nombres que tes enfants ont transformés en méchants monstres. Chaque mois tu en gagnes, chaque jour tu en perds, l'addition est sévère, je rends la note qui te l'enfer. C'est vrai, je m'avoue peut-être vaincue, je la bourre, je la sue, la vie me bouffe avec un seul goût. Entends-moi hurler, gerber toutes mes tripes dans ce son qui compte la vie d'un con pessimiste. Je me sens tel putain.
La musique que vous venez d'écouter s'intitulait Monsieur Madame de Loïc Notet.
Nous accueillons maintenant Bernard Caron, un ami de ma famille et un ancien musicien de ma fanfare. Il est âgé de 71 ans et il a travaillé en tant qu'enseignant pendant 37 ans. Et dans sa retraite, on lui a demandé de créer une association pour soutenir un hôpital au Cameroun. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quand et comment l'association a-t-elle été créée ?
L'association a été créée parce que j'ai eu une entrevue avec une sœur religieuse originaire de Vouvry, sœur Marie-Michèle Cornu, qui avait mis en route un hôpital au centre Cameroun et qui avait des difficultés financières pour continuer son travail et qui cherchait des appuis, des soutiens psychologiques en Suisse et financiers bien entendu. Et puis je l'ai contacté, enfin elle m'a contacté, on s'est rencontrés 2 heures après avoir écouté ce qu'elle avait à me dire. Je me suis laissé prendre à son jeu et j'ai décidé de faire quelque chose pour l'aider. Alors depuis là, on a trouvé dans sa famille des personnes, dans le milieu hospitalier ici, au niveau des infirmières de l'hôpital de Martigny, d'autres personnes, et puis ça a créé un comité. Et on a fondé l'association avec 17 personnes en mois d'octobre 2012.
As-tu déjà été sur place au Cameroun ?
Alors oui, je suis allé 3 fois sur place. La dernière fois, c'était en janvier, c'était la plus grande expérience parce que je suis resté à peu près 20 jours sur place. Les autres fois, c'était plus court, on a fait un peu de tourisme à droite à gauche. Cette fois, je suis resté sur place parce que j'ai voulu analyser les besoins, ce qui restait à faire, quel était le rôle en tant qu'association aidante, et qu'est-ce que bien comprendre exactement tous les secteurs de l'hôpital.
Quelles sont les actions que votre comité a mis en route pour récolter des fonds?
Alors, dès le départ, on a d'abord été chercher des membres. Aujourd'hui, il y a 105 membres qui payent 100 francs de cotisation par année. Ça nous fait déjà un fonds de caisse de 10 000 francs, c'est pas négligeable, c'est même fantastique. Et puis, ensuite, on fait un souper de soutien annuel qui nous rapporte bon an, mal an, entre 10 et 15 000 francs. Et puis, au début, on a fait des concerts avec des chœurs des jeunes, on a fait des marchés, on a fait la fête de la châtaigne. Et tout ça, c'était plus pour se faire connaître que financièrement, parce que ça n'a jamais été des gros montants. Mais voilà, comment est-ce qu'on vivote. On a des sociétés, des fondations qui nous soutiennent, comme l'hôpital de Valère à Sion, comme le groupe Genolier, comme une fondation Zuffré à Sierre, comme Valais Solidaire, etc. On a quand même été beaucoup essayer de chercher des grands trucs qui nous apporte un peu plus d'argent.
Et comment se passent les transferts à l'étranger?
Alors les transferts financiers se passent banque à banque, banque Raiffeisen, Martigny Région à banque de Yaoundé, tout simplement, ça coûte 20 francs, quel que soit le montant. C'est fantastique, ça marche super bien. La sœur va récupérer l'argent à la banque à Yaoundé. Puis voilà, puis on n'a jamais eu aucun problème au niveau des finances. Par contre, au niveau du matériel qu'on a envoyé là-bas, qu'on essaye de faire parvenir, ça c'est plus compliqué, les containers. Aujourd'hui, la corruption au Cameroun est énorme, comme dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Et chacun veut tirer sa quote-part. Quand il voit arriver un bateau qui vient de Suisse, un container, il pense qu'il y a des milliards dedans, donc on peut ponctionner 5-10 000 francs sans problème. Et ça c'est un gros souci, c'est un autre grand souci. Pour un futur conteneur qu'on doit faire cet automne.
Et donc, qui est la personne de référence sur place et vous l'avez connue comment?
Alors, ça rejoint un petit peu la première question. Donc, c'est sœur Marie-Michel, c'est une sœur de Saint-Jean-Nanté de Martigny. Je l'ai connue par l'intermédiaire des infirmières de Martigny. Après, je ne vais pas faire le détail, c'est quelqu'un de lui qui est allé là-bas, qui a rencontré cette sœur et puis qui a parlé un peu de ses soucis.
Ok. Et la situation financière de l'hôpital en ce moment, comment elle est?
Alors la situation financière, aujourd'hui l'hôpital souffre encore de pas assez de malades. C'est un peu marrant de dire ça. On est à 60-70% d'occupation. Il faudrait arriver à 80-90% pour que ça tourne. Parce que bien sûr, même s'ils ne payent pas beaucoup de choses, c'est pas très cher, il faut quand même que les gens puissent, qu'il y ait des rentrées, puisque toutes les infrastructures sont sur place, mais si elles ne sont pas utilisées, on doit attendre les malades. C'est comme si on a un magasin très achalandé, puis il n'y a pas de clients. Quoi.
Mm-hmm. Est-ce que tu comptes retourner une fois au Cameroun?
Alors là, je dois dire que j'aimerais bien, mais ouais, je pense que je vais finir par y retourner, mais là, ce n'est pas tout de suite, à tous les cas.
Ok, alors merci.
J'avais dit que c'était la dernière fois cette année, mais je vois qu'il y a quand même... j'ai des amis qui sont tellement enthousiastes et qui voudraient que je les accompagne que je vais peut-être retourner, mais peut-être pas aussi longtemps.
Ok, alors merci pour tout et puis bonne journée.
Merci à toi.
Un extrait de « J'ai égaré la lune » d'Erwan G. par Maëlle.
Pour comprendre pourquoi on se trouve dans un engin métallique à plus de 9 km au-dessus du sol, il faut remonter un soir d'hiver il y a 6 mois. On était dans l'appartement d'Aiden à Brooklyn sur un canapé fait en tresse de jacinthe d'eau. La tête sur mes genoux, Aiden dessinait des créatures rigolotes sur mes notes de cours pendant que je gribouillais le plan d'un article pour la Gazette du Hérisson, un petit journal caustique créé avec quelques copains à Columbia. Un flyer qui traînait parmi mes notes a attiré l'attention d'Aiden. Ce petit bout de papier rose faisait la promotion des échanges internationaux. On y insistait sur l'importance de découvrir d'autres cultures pendant ces années de quête de soi-même. Je n'avais pas fait attention. Je vais être honnête, je suis plus souvent en quête de chocolat qu'en quête de moi-même. Sur un ton hybride, mi-sérieux, mi-blagueur, Aiden a proposé qu'on fasse notre deuxième année de fac à Tokyo. Elle est fascinée par le Japon depuis qu'elle est petite. Elle m'en avait souvent parlé. Elle y projetait d'y passer une année après ses études. Appelle ça le destin, la chance ou bien le talent de nos anges gardiens architectes de vie, mais parmi les échanges proposés à la fois par ma fac et par l'école d'Aiden, il y avait Tokyo. Elle n'imaginait pas à quel point ça résonnerait en moi. Une aventure à deux, se construire des souvenirs, faire ce que les autres ne font pas. Yes, please. On a 19 ans, on a fait une collège prep. Normalement, on suit un chemin qui est tracé devant nous et la vie se passe sans trop de surprises. Mais moi, je voulais un chemin pas tracé. Arrêter de dire que la vie est courte et commencer à vivre comme telle. Ne pas attendre la fin de la fac, le début d'une carrière, un mariage ou des enfants pour avoir l'impression d'accomplir quelque chose. Vivre tout de suite. Je me suis dit que faire ça sur une autre planète, avec ma personne préférée, ça aurait de l'allure. Et puis, mon film favori est Lost in Translation. Et on peut dire ce qu'on veut, mais un film favori, ça compte pour quelque chose dans une vie. Quand on a expliqué l'idée à nos parents, il y a eu des sourcils froncés, des fronts ridés et un gros paquet de questions. Mais après plein de négociations bien menées, ils ont fini par accepter. La quête de soi-même m'a fait forte impression. Alors, on s'est toutes les deux inscrites pour partir presque incrédules, convaincues que quelque chose finirait par faire capoter notre projet fou. Une sorte de grain de sable. Mais nos anges gardiens architectes de vie devaient veiller au grain, parce que nous voilà bien, 6 mois plus tard, en route pour une aventure à Tokyo. Notre but ? Vivre tout de suite.
En août 1987, le Kinball est reconnu comme un sport à part entière. Il y a en tout 12 participants répartis en 3 équipes de 4 joueurs. Traditionnellement, il y a les roses, les gris et les noirs. Les règles sont simples. Les équipes doivent se lancer le bâton mesurant 1m22 de diamètre sans le faire tomber au sol. Au cours de chaque lancer, toute l'équipe doit être en contact avec le ballon. Avant de le lancer, l'équipe en possession du ballon doit dire la couleur de l'équipe à qui il lance et Omnikin. Ce mot a été choisi puisque c'est à la fois le nom de la société qui a développé ce sport et celui du ballon officiel. Pour marquer un point, il faut que l'une des équipes adverses fasse tomber le ballon. Les équipes qui n'ont pas commis la faute marquent toutes les deux un point. Le match se joue habituellement en 7 périodes de 7 minutes, mais la première équipe qui remporte 3 périodes est déclarée gagnante.
Laissez-moi danser, quelle musique entraînante que nous a composée Dalila.
Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue.
Un bis est un canal avec une faible pente qui amène l'eau des torrents et des rivières vers des terres agricoles. Le bis d'Ayen fut bâti en 1442 par les agriculteurs de la région de Sion pour amener l'eau jusqu'à leur culture depuis les hauteurs, là où se trouvent actuellement le lac et le barrage de Seuzier. Ouvert à l'été 2012, le musée des bis se situe à Beautir, dans la commune d'Ayen. Le nom de Ayen est ancien. On trouve une première citation dans un document de 1052 où le nom est écrit Agen. Une seigneurie et un château sont certifiés à Ayen à cette époque. Au XIIe siècle, on trouve déjà l'orthographe actuelle au milieu d'autres formes également employées, Ayente, Ahente et Ayens. La commune d'Ayen est la séparation des eaux des Alpes bernoises et la frontière entre les cantons du Valais et de Berne. De Sion, sur la route conduisant à Anzers et à Crans-Montana, le cadre du musée est la Maison Peinte, un édifice classé datant du XVIIe siècle. 270 mètres carrés d'exposition sont maintenant dédiés à l'histoire des bis à travers les siècles. Plus de 1000 documents, des centaines d'objets et différentes reconstitutions. Le musée est sur 4 niveaux. Durant l'année, un programme d'animation varié est proposé avec des randonnées instructives ou des marchés du terroir. Dès le 12 septembre, le bis d'Ayen apparut sur les nouveaux billets de 100 francs. Le nettoyage du bis se fait au printemps et quelquefois, l'opération se répète en été. Il est nécessaire de nettoyer les parties à ciel ouvert en enlevant les feuilles de branches et la boue pour que l'eau puisse couler. Le mot bis serait issu du mot germanique « bête » et signifierait le lit d'eau. Le bis d'Ayen est l'un des plus longs bis du Valais.
La chanson suivante s'appelle Nathalie. Ah, quel beau prénom! Merci Gilbert Bécaud d'avoir écrit une chanson sur ce prénom.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Je vais vous raconter l'histoire de la chanson Mistral gagnant. La chanson a été écrite par Renaud en décembre 1985. Une chanson écrite pour sa fille Lola. Le titre vient d'une ancienne confiserie, le Mistral gagnant. Cette chanson parle des souvenirs et des bonbons de l'auteur, qu'il mangeait quand il était enfant avec ses frères et sœurs. Renaud racontait qu'il la trouvait trop personnelle pour la diffuser et qu'elle n'allait intéresser pas grand nombre de personnes, vu qu'elle parlait de sa propre vie personnelle. Et c'est sa femme qui l'obligea à la sortir après qu'il lui l'ait chanté au téléphone, lorsqu'il était à Los Angeles au studio d'enregistrement. Cette chanson est maintenant une icône de la chanson française. Il y a beaucoup de personnes qui ont repris sa chanson, comme Cœur de Pirate, Lara Fabian, Amel Bent, Calogero ou encore Florent Pagny.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi. Et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux. Te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler. Bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer. S'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les coco-boères. Et les vrais roux-doudous qui nous coupaient les lèvres. Et nous niquer les dents, et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants.
Et maintenant, nous accueillons Rosaline Franklin pour une interview. Pourriez-vous nous expliquer quel est votre métier ?
Bien sûr. Depuis mon plus jeune âge, je me suis intéressée à la physique-chimie. Après mes études, je suis devenue psychochimiste.
Avez-vous fait ou participé à des découvertes importantes ?
J'ai participé, par exemple, à la découverte de l'acide désoxyribonucléique, autrement dit de l'ADN, et du virus de la mosaïque du tabac.
À quoi s'attaque ce virus ?
Ce virus s'attaque aux plantes, mais en particulier au tabac.
Qu'avez-vous fait comme étude pour accéder à cette fonction ?
Eh bien, à 11 ans, je me suis inscrite dans un des seuls établissements de Londres où on enseigne la physique-chimie aux filles. Puis j'ai eu un doctorat en physique-chimie en 1945 et j'ai ensuite continué mes recherches sur les structures de carbone à Paris de 1947 à 1950.
Êtes-vous retournée aux États-Unis après cette période en France ?
Effectivement, j'ai même reçu une bourse pour étudier les fibres d'ADN et ça m'a beaucoup aidée vu que j'ai réussi à distinguer la forme A de la forme B.
Vos recherches ont-elles été publiées ?
Oui, mais par James Dewey Watson et par Francis Crick, qui ont eu accès à tout ce que j'ai trouvé. Ils ont ensuite reçu le prix Nobel en 1962 sans jamais citer mon nom ou reconnaître mon rôle.
Vous n'avez donc jamais été nobélisée ?
Non, mais en 2008, j'ai reçu le prix Louisa Gross Howitz.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Le softball, aussi appelé ball-ball en Amérique du Nord francophone, a été créé en 1887 à Chicago le jour de l'Action de Grâce. Un groupe d'environ 20 jeunes hommes s'était réuni dans un gymnase pour voir les résultats d'un match de football américain entre les universités Harvard et Yale. Après que la victoire de Yale eut été annoncée et les paris payés, un homme prit un gant de boxe et le jeta sur quelqu'un qui le frappa avec un poteau, George Hancock, considéré comme l'inventeur du softball. Il attacha le gant de boxe de sorte qu'il ressemble à une balle, dessina un terrain sur le plancher et cassa un manche à balai pour s'en servir comme d'une batte. Il faudra attendre 1920 avant que le sport prenne le nom de softball. Le but du jeu est de faire avancer les coureurs autour de quatre bases jusqu'au marbre et de marquer le plus de points possible. À partir de 1933, un championnat fut organisé par l'ASA, Amateur Softball Association of America. Le sport est à l'origine uniquement joué par des hommes et c'est avec la formation de l'ASA que les femmes commencèrent à y jouer. Pour atteindre les Jeux Olympiques, le softball féminin a dû se développer. La première équipe a été formée en 1895 à l'école secondaire de Chicago. Ces étudiantes n'ont obtenu un entraîneur pour les compétitions qu'en 1899. Le softball resta pendant longtemps aux États-Unis. C'est avec la Seconde Guerre mondiale que les JO exportèrent le sport.
Et pour clôturer, je m'excuse déjà de ma prononciation, nous allons écouter She Taught Me How de Yodel de Frank Field. Merci de votre attention. Bonne journée.
I went across to Switzerland where all the yodelers be to try to learn to yodel with my yodel OD. I climbed a big high mountain on a clear and sunny day and met a yodeling gal up in a little Swiss chalet. She taught me to yodel, yodel OD, yodel OD, yodel OD. She taught me to yodel, yodel OD, yodel OD. Oh, 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 oh